réussir à reconnaître l'assemblée de tout le titre de notre physicien à la joie qu'elle produit en lui. Alors, ce questionnement autour de la parole, que je ne peux pour ma part qu'effleurer, que balbutier d'une certaine manière, ce questionnement est sans doute aussi vieux que le monde, en tout cas aussi vieux que le monde de la culture humaine. D'une manière ou d'une autre, dans sa qualité d'être parlant, parce que nous sommes des êtres parlants, nous les humains, et que c'est cette qualité d'être parlant qui nous distingue d'ailleurs de plus grandement des animaux, dans sa qualité d'être parlant, l'être humain a toujours été habité par une interrogation concernant sa parole. La Bible nous raconte. C'est évidemment, en tout cas, dans la compréhension qui est la mienne, c'est évidemment un mythe. Enfin, il nous raconte que le monde a été créé par Dieu. Et dans le récit de la Genèse, que vous connaissez sans doute, Dieu crée en parlant, Dieu dit, et cela est. D'abord, en hébreu, c'est le verbe qui désigne à la fois l'action de parler et l'action de créer. Dire, c'est faire, affirmait le philosophe anglais John Austin dans un livre qui portait d'ailleurs ce titre, dire, c'est faire, c'est-à-dire que parler, ce n'est pas agiter du vent, c'est poser un acte, c'est agir. Et ce qui est très intéressant, c'est que la première mission que Dieu confie à l'homme dans le livre de la Genèse, c'est de nommer les créatures. Cette idée qui me roule une Bible chrétienne, hein, qui s'appelle la Tobe, c'est la traduction écuménique de la Bible, c'est dans le livre de la Genèse au chapitre 2, simplement le verset 19. Le Seigneur Dieu modela du sol toute bête des champs et tout oiseau du ciel, qu'il amena à l'homme pour voir comment il les désignerait. Tout ce que désigna l'homme avait pour nom être vivant. Magnifique ça. Tout ce que l'homme nomme a comme nom être vivant. C'est-à-dire que par sa parole, l'homme extirpe le monde du vivant de l'indétermination, de la confusion et du chaos. En donnant un nom aux créatures qui l'entourent, il fait exister chaque espèce dans sa spécificité, parce que quelque chose qui n'a pas de nom, quelque chose qui n'est pas nommé, eh bien ça n'existe pas. Sur un autre registre, un ancien philosophe grec qui s'appelait Héraclite d'Éphèse, qui n'était pas franchement le prototype du joyeux de rire, si j'ose dire, parce qu'on l'appelait aussi Héraclite l'Obscur, était lui aussi très préoccupé par la question de la parole. La parole, c'est le logos en grec. Je cite à un moment donné dans mon bouquin, Héraclite disait, ce verbe, cette parole qui est vraie, est toujours incompris des hommes, soit avant qu'ils ne l'entendent, soit alors qu'ils l'entendent pour la première fois. Quoique toute chose se fasse suivant ce verbe, les hommes semblent n'avoir aucune expérience. Les hommes ne s'aperçoivent pas plus de ce qu'ils font étant éveillés qu'ils ne se souviennent de ce qu'ils ont fait en dormant, lorsque dit Héraclite. Pour le christianisme, alors notamment dans un texte fameux qui est le prologue de l'évangile de Jean, un texte très complexe, le verbe, vous le savez sans doute, est devenu chair. Vous savez que pour les chrétiens, Jésus, symboliquement le Christ, le Fils de Dieu, c'est la parole faite chair. C'est l'idée principale du christianisme que d'autres religions évidemment récusent ou même continuent de récuser, comme l'islam par exemple. Mais l'idée principale du christianisme, c'est qu'il y a incarnation, que Dieu, logos créateur, a épousé la condition humaine. Et plus près de nous, un athée célèbre, Sigmund Freud, l'explorateur du vaste continent de l'inconscient humain, parlait lui aussi de notre Dieu, le Logos. Alors, à ce stade-là, je voudrais quand même préciser très simplement la chose suivante, parce que j'évoque tout cela un peu rapidement, bien entendu. C'est qu'il n'y a pas dans mon esprit de volonté de faire de la soupe. Je veux dire que je ne veux pas faire ce soir devant vous une sorte de synthèse approximative de la question de la parole telle qu'on la comprend en religion, dans la philosophie ou encore dans le champ psychanalytique. Je pense que des intervenants plus compétents que moi pourraient dire des choses plus finales sur ces différents champs et sur toutes les distinctions qu'il faut faire inévitablement entre la théologie, la philosophie et la psychanalyse, mais, il n'en demeure pas moins, ça dans mon esprit c'est assez clair, que dans ces différents champs philosophiques, religieux et psychanalytiques, il y a au moins un point commun que n'importe qui, n'importe quel être humain peut comprendre, quel que soit son degré de réflexion personnelle ou d'éducation, c'est que ça parle en nous. Quelque chose dont l'être humain cherche à se dire, et lorsque cela vient au jour, nous sommes toujours soulagés, pour ne pas dire peut-être pour une part guéris. Il y a une force de la parole qui ne cesse pas de questionner les êtres humains de l'intérieur d'eux-mêmes sur leurs conditions. Alors, évidemment, si on dit il y a une parole là, ça parle, la question se pose, oui, mais ça parle d'où? Qui parle? D'où procède cette parole qui questionne les humains de l'intérieur d'eux-mêmes? Qui est l'auteur de cette parole en quelque sorte? Ça vient d'où? Il y a réponse claire, ça vient de l'autre. D'abord, cette parole qui nous interpelle, elle vient de l'autre avec un petit cas, c'est-à-dire autrui. Tous ceux qui nous ont parlé depuis notre naissance, et peut-être même avant, et dont la parole nous a structurés. Nos parents, les psychanalystes disent parfois, quand le bébé vient au monde, il a déjà été parlé. Effectivement, que n'a-t-on déjà dit avant lui, avant sa venue au monde, sur ce petit mystérieux qui n'est même pas encore là, mais il a déjà été parlé. Donc, cette parole qui nous vient du petit autre, d'autrui, c'est la parole de nos parents, de notre père, c'est la parole, lapsus intéressant, c'est la parole de notre pasteur, de notre rabbin, de notre maître d'école, etc. Et puis cette parole, elle vient aussi de l'autre, avec un grand A. C'est une parole qui vient du grand autre, vaste sujet de grand autre. Alors, c'est quoi le grand autre? Du point de vue des religions, le grand autre, généralement, c'est Dieu, c'est un être, si je suis bien informé, la plupart des religions, généralement, considèrent, jusqu'à nouvel ordre, Dieu comme un être, bon, il y aurait là, au-dessus de nous, quelque part, invisible, un être suprême qui se révèle au fil de l'histoire de l'humanité dans sa parole. Alors, sa parole pour un certain nombre de gens, c'est la parole de la Bible, ou encore plus radicalement, parce que là elle est carrément indiscutable, c'est la parole du Coran, littéralement révélée par cet être suprême à l'humanité de manière tout à fait concrète et indiscutable. En psychanalyse, c'est pas tout à fait la même chose. Le grand autre, c'est pas franchement un être, c'est plutôt un lieu en nous, c'est un topos, un lieu inconscient, tout ça parle en nous, à notre insu. C'est-à-dire qu'il y a en nous une vérité autre que celle dont nous avons conscience et qui cherche à se dire, mais Lacanien dirait, c'est la vérité inconsciente de notre désir. Alors le grand autre, écoutez, franchement, moi, Dieu, l'inconscient, ne comptez pas sur moi, tout pasteur que je suis, pour en dire quelque chose de définitif. Mais quoi qu'il en soit, il découle de ces quelques remarques un questionnement précis qui comporte au moins trois volets desquels je voudrais maintenant vous dire quelque chose. Un volet politique, un volet clinique et un volet éthique. Le volet politique, d'abord, je le formulerai de la manière suivante. Qu'est-ce que la parole est devenue dans le monde dans lequel nous vivons? Nous vivons aujourd'hui dans un univers, je l'ai évoqué tout à l'heure, envahi par des discours de toutes sortes, politiques, médiatiques, publicitaires, des discours religieux aussi, alors il y en a toutes sortes. J'ai travaillé pendant 4 ans sur les questions interreligieuses et interculturelles, je peux vous dire que des discours religieux, il y en a. Et on communique avec nous, à longueur du temps, avec des slogans, avec des formules, parce que dans le brouhaha ambiant que font tous ces discours conjugués, il faut faire court, il faut que le message passe, tout le monde a un message à faire passer, et il faut qu'il passe de manière efficace. Et la parole qui nous est délivrée, résultat, est de plus en plus de la parlotte, signe des temps. C'est une parole qui recouvre d'ailleurs de plus en plus, ça me paraît intéressant de souligner, une parole qui recouvre de plus en plus aux euphémismes. Vous avez remarqué ça? Il ne faut plus dire une femme de ménage, mais une technicienne de surface. Il ne faut plus dire un boucher, mais un préparateur en produits carnés. Il ne faut plus dire qu'une personne est handicapée, il faut dire qu'elle est à mobilité réduite. Et au bout du compte, ce que je trouve quand même absolument symboliquement parlant, c'était quand même un summum du technique quand on y pense, on ne dira plus bientôt qu'une personne est morte ou même décédée, on dira qu'elle est partie. À bien des égards, ça me fait penser à ce vers de l'anarchiste Léo Ferré qui disait « Les mots ne sont plus les mots, mais une sorte de conduit à travers lequel les analphabètes se donnent bonne conscience. À certains égards aussi, le monde actuel ressemble à celui qui était écrit par George Orwell dans son livre 1984, un monde dans lequel la parole est formatée et contrôlée, un monde dans lequel les mots sont façonnés par l'idéologie dominante, par le pouvoir et à son service exclusif. Orwell parle en 1984 de la novlangue, une langue nouvelle, new speak en anglais, une langue mise en œuvre par le gouvernement politique, un gouvernement qui sait très bien, comme nous le savons tous, que les mots véhiculent des représentations et qu'en maîtrisant les mots, on va maîtriser les représentations que les hommes et les femmes se font du monde qui les entoure. Avec la question de la novlangue, Orwell n'a d'ailleurs pas inventé grand-chose, et on n'est même pas dans la science-fiction, puisque ce qu'il décrit, le bouquin est sorti en 1948, ce que décrit Orwell, avait très concrètement eu lieu sous le Troisième Reich, avec l'élaboration à un degré peut-être jamais atteint dans l'histoire de l'humanité, de la parole érigée au rang de propagande pure et simple. C'est un philologue qui s'appelait Victor Klemperer, planté à Dresde, je crois, pendant le nazisme, qui a observé cette mutation de la parole lors de la montée du nazisme et qui l'a analysé dans un gros bouquin qui s'appelle LTI, Lingua Terti Imperii, c'est-à-dire la langue du Troisième Reich, analysant comment le nazisme a imposé dans les esprits de manière sournoise, via les changements sémantiques qu'il a imposés dans la langue de courante de tous les jours, ses représentations et son idéologie. Et l'une des meilleures définitions, alors je mets « meilleure » entre guillemets, vous comprendrez pourquoi, mais l'une des meilleures définitions que j'ai entendues, que j'ai lues plutôt, de la parole érigée à ce stade-là de la propagande, est précisément celle, alors pardon d'évoquer ce personnage ici, mais c'est quand même intéressant, Et celle que donnait le ministre nazi de la propagande lui-même de la parole, Joseph Goebbels, qui disait « Nous ne parlons pas pour dire quelque chose, mais pour produire un effet. Nous ne parlons pas pour dire quelque chose, mais pour produire un effet », une formule que bien des communicants actuels se sont sans doute plus ou moins consciemment appropriée. Alors vous voyez qu'avec les exemples de la nouvelle langue décrite par Orwell et de la langue du Troisième Reich analysée par Klemperer, nous sommes au cœur de ce qui menace, à mes yeux, notre humanité parlante et la civilisation, c'est-à-dire que la déliquescence et l'instrumentalisation de la parole ne peuvent produire que des effets politiques totalitaires. Pas seulement des effets politiques, aussi des effets cliniques, si je puis, moi qui ne suis pas médecin, qui ne suis pas thérapeute, me permettre d'utiliser ce terme, mais j'aime beaucoup le mot clinique, parce qu'étymologiquement, il procède de l'inclinaison. La clinique, au fond, c'est le médecin qui s'incline vers son malade pour lui prêter attention. Et puis ça correspond à une réalité que chacun de nous, je pense, peut aisément observer. De nos jours, on est pressé, il faut être efficace, nos différentes institutions, nos entreprises nous demandent d'être rentables, n'est-ce pas? Or, parler, ça prend du temps, ce temps que nous nous prenons ce soir. Parler, ça ne s'inscrit pas forcément de manière harmonieuse dans un agenda de patient, alors quand les gens souffrent, eh bien, on traite à coups de médicaments, on leur donne du Prozac, des antidépresseurs, des somnifères, dont nous sommes, paraît-il, en France, les champions du monde en matière de consommation. Alors, je ne parle pas à la légère, je me réfère très concrètement à ce que dit à quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus compétent que moi dans ce domaine, je parle de Daniel Lemelin, qui est psychiatre et psychanalyste à Strasbourg, et qui vient de publier, il y a quelques semaines, un bouquin qui s'appelle justement « Répondre de sa parole ». Et il dit la chose suivante, ce que je vous lis. La douleur comme signal. La douleur se traduit par l'énonciation d'une plainte qui se fait le plus souvent à l'adresse du médecin. Les patients qui viennent consulter un médecin généraliste ne sont pourtant pour la plupart pas malades, au sens de la faculté de médecine, ils ne sont pas porteurs d'une maladie identifiable dans leur corps, traitable en tant que maladie, souffrance d'organes. Les patients que le médecin voit au quotidien, qui remplissent les salles d'attente, présentent une souffrance psychique, qui n'est pas moins une souffrance qu'une souffrance d'organes, mais qui, entre guillemets, ne souffre pas les mêmes traitements. Pour reprendre une expression de Lucien Israël, ils sont malades de la parole. Malades de la parole, signe des temps. En tant qu'humains, nous avons pourtant, pour exister, autant que nous avons besoin de nourriture, d'eau, lumière, d'air, et aussi d'être aimés, nous avons besoin de paroles justes pour nommer ce qui nous oppresse, ce qui nous empêche de vivre. Albert Camus l'a dit à sa manière, mal nommer les choses, écrivait-il, c'est ajouter au malheur du monde. Et j'ajouterai modestement pour ma part à la suite de Camus, vouloir bien nommer les choses, c'est tenter de repousser l'emprise du malheur. La question de la parole n'est donc pas une question de distraction intellectuelle ou philosophique. C'est une vraie question politique et existentielle. C'est aussi, et je terminerai par là, c'est aussi une question éthique. Car si nous considérons que la parole n'est pas seulement faite pour communiquer, c'est pas légèrement trivial, mais Charlotte Herfray utilise quelquefois cette expression, n'oubliez pas que dans communiquer, il y a niquer. C'est-à-dire que quand on cherche à communiquer avec vous, pardon, mais on cherche quand même à vous aider quelque part, si nous considérons que la parole n'est pas seulement faite pour communiquer de manière utilitaire, si nous pensons, ça je crois que juif, chrétien, athée, n'importe qui, ça peut nous rassembler, si nous pensons que parler, ça veut dire quelque chose, que les mots ne sont pas seulement là pour manipuler, pour produire des effets, et pour que nous arrivions à nos fins, ça vous pouvez le faire si vous voulez draguer, vous ne toujours pas raciner l'autre en vous disant qu'il y a bien à un moment donné, ou un des termes que vous employez va faire son petit effet sur l'autre. Enfin, on ne passe pas ses journées à draguer. Si nous croyons que la parole surgit du grand autre, le grand autre, que ce soit Dieu, que ce soit l'inconscient, personnellement je m'en fous, mais que c'est une parole qui surgit de quelque part, pour nous mettre en question, pour nous mobiliser, pour nous aider à nous relever de nos échecs, de nos deuils, pour nous remettre en scène. Si nous pensons que nous sommes culturellement riches des paroles que nous avons reçues de ceux qui nous ont précédés et qu'il nous incombe de les transmettre à ceux qui viennent après nous, parce que c'est une question vitale de culture, de civilisation et d'humanité, alors cela veut dire que dans les mots que nous prononçons, notre responsabilité éthique est pleinement engagée. Pour moi, ce n'est pas de la théorie. Chacun d'entre nous a quand même fait concrètement dans sa vie l'expérience d'une parole qui a bouleversé le cours de son destin. Lorsque quelqu'un nous dit, ou lorsque nous disons à quelqu'un après parfois moult hésitations, je t'aime, eh bien il y a là une parole, une expérience de ces trois mots et de leur force dans le cours de notre destin. Les mots ont un poids. Élie Wiesel a dit un jour, on devient vite étranger. Il suffit que quelqu'un me traite d'étranger et je le suis. Cette observation, Elie Wiesel faisait écho à la super phrase de Freud, qui avait déjà tout résumé à sa manière. Avec des mots, un homme peut rendre ses semblables heureux ou les pousser au désespoir. L'éthique de la parole nous amène donc à comprendre, je terminerai sur ce point, que la parole, c'est la loi vivante entre nous. Bien sûr, pour faire vivre ensemble les sociétés humaines en bonne intelligence, on a édicté des lois de toutes sortes, des lois religieuses, des règles morales, des prescriptions, et puis bien sûr des lois juridiques. Toutes ces lois ordonnent notre rapport aux autres, notre rapport au temps, notre rapport à l'histoire. Nos sociétés démocratiques sont en particulier fondées sur des principes constitutionnels et juridiques indispensables et incontournables, mais nous savons aussi que l'observance des lois n'est rien sans l'esprit qui préside à leur énonciation. C'est-à-dire qu'en amont et en aval des lois, il y a la parole qui édicte ces lois, et c'est toujours une parole qui ne se laisse pas contenir dans les lois qu'elle formule. Il y a aussi dans la parole quelque chose qui est toujours un peu transgressif par rapport aux règles et aux lois qui sont édictées. Ce qui fait loi entre les humains, ce n'est donc pas in fine les règles juridiques, même si elles sont indispensables, mais c'est la parole qui fonde ces règles. C'est ce qui nous permet de dire à la suite de Jacques Lacan et de quelques autres, que la loi vivante, alors écoutez bien parce que c'est un jeu de mots, la loi vivante est celle de l'interdit, mais là en l'occurrence il faut visualiser mentalement le mot interdit et on va le couper en deux, on va l'écrire en deux, inter, traduction, dit, l'inter près d'union dit, c'est ce qui se dit entre, c'est ça qui fait loi, c'est la parole qui se dit entre deux humains, entre un maître et son élève, entre le père et le fils, cette parole entre deux humains, c'est elle qui fait loi, ce n'est pas une loi codifiée, ce n'est pas une loi de la lettre, ce n'est pas une loi morte, c'est une parole vivante qui ne fait de s'échanger, de s'interpréter ou d'évoluer. Je conclue avec cette question de la loi vivante et éthique qui se dit entre nous en vous lisant simplement un petit poème de Paul Éluard qui, à sa manière, exprime ce dont j'ai essayé autant que je pouvais le faire clairement de vous parler ce soir. C'est un poème qui s'intitule « C'est la douce loi des hommes ». C'est la douce loi des hommes. Du raisin, ils font du vin. Du charbon, ils font du feu. Des baisers, ils font des hommes. C'est la dure loi des hommes. Se garder intact, malgré les guerres et la misère, malgré les dangers de mort. C'est la chaude loi des hommes de changer l'eau en lumière, le rêve en réalité et les ennemis en frères. Une loi vieille et nouvelle qui va se perfectionnant du fond du cœur de l'enfant jusqu'à la raison suprême. Je redis ces quelques vers parce que je les trouve absolument magnifiques. Une loi vieille et nouvelle qui va se perfectionnant du fond du cœur de l'enfant jusqu'à la raison suprême. C'est la loi de l'éthique de la parole. Je vous remercie de votre attention.